SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
A new SBS music station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more? Tune in from the 1st of May
on DAB Radio, online,
the SBS audio app
and SBS On Demand.
Vous êtes avec SBS French.
Dans l'actualité sportive de ce mardi, on commence avec le football en Australie. À quelques heures du coup d'envoi du match entre les Socceroos contre Curaçao ce mardi soir à Melbourne, le défenseur australien Aidan O'Neill affirme que l'ambiance au sein de l'équipe nationale australienne est au plus haut niveau. En effet, un but tardif de Jordan Boss a permis aux Socceroos de vaincre le Cameroun 1-0 lors de leur match de la FIFA Series à Sydney vendredi dernier. O'Neill indique que l'équipe nationale australienne savoure encore sa victoire, mais garde le cap sur le match de ce soir.
It's a huge game. We've got to, all of us have to put our, best foot forward and just try to play our best and keep improving as a team as well. Yeah, it's awesome. To come back and have the support from everyone is really good, before we, head to the World Cup.
Il faut signaler que ce sera le dernier match des Socceroos avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde au mois de juin prochain. Toujours parlant de cette Coupe du Monde, ce week-end s'est joué plusieurs rencontres préparatoires à la Coupe du Monde 2026. On commence par deux matchs des Bleus qui se sont soldés par un parcours sans faute. D'abord avec une victoire contre le Brésil 2-1 à Washington, suivie par une autre victoire plus convaincante 3-1 contre la Colombie ce dimanche. Un résultat qui devrait plaire au sélectionneur national à 3 mois de la Coupe du Monde. Cédric de Oliveira, RFI.
3-1, score final pour cette équipe de France. C'est la 4e victoire consécutive pour les Bleus qui ont fait le plein de confiance avant ce mondial. Les joueurs présents sur la pelouse ont marqué des points auprès du sélectionneur Didier Deschamps à moins de 3 mois maintenant du début de la Coupe du Monde.
Une autre rencontre en marge de la Coupe du Monde qui opposait l'Espagne à la Serbie, remportée sans grande difficulté par 3-0. Ce, à la grande satisfaction de Luis de la Fuente, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne.
En discutant avec certains collègues, on m'a dit qu'il manquait parfois un attaquant à notre sélection, un pur buteur. Mais comme je l'ai toujours dit, nous jouons avec des attaquants aux caractéristiques très différentes. Mais surtout, nous avons une garantie absolue, pas sur le plan des buts, mais sur le plan footballistique. Je sais que Mikel Oyarzabal, Ferran Torres ou Borja Iglesias, par exemple, sont des atouts précieux. Nous ne manquons pas du tout de buteurs en Espagne.
Il faut signaler que l'Espagne retrouvera dans son groupe le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay dans quelques mois. Et toujours en Espagne, un autre match, amical lui aussi, opposait le Maroc à l'Équateur. C'était le premier match des Lions de l'Atlas après la finale de la CAN. Un match qui s'est joué dans un contexte particulier sur fond de la polémique autour de l'attribution de la CAN. En effet, le Maroc, déclaré vainqueur sur tapis vert, n'avait pas de trophée à présenter. De ce fait, la décision de la CAF était au centre des discussions. Ambiance sur place avec Pierre Chaperon de RFI.
Quelques maillots et drapeaux marocains dans un stade acquis à l'Équateur. Ils étaient plusieurs milliers de supporters des Lions de l'Atlas venus surtout de la région madrilène pour saluer leur champion. Ayoub, la vingtaine, est venu entre amis. Plus question de penser à la Coupe d'Afrique maintenant, c'est le mondial qui compte.
Pour moi, l'essentiel, c'est que la Coupe du Monde arrive. La CAN, c'est derrière nous, on l'a gagné dans les règles. Maintenant, on est tourné vers le mondial.
Tourner la page, passer à autre chose, oublier ce sacre obtenu sur tapis vert. Yacine Bounou, le gardien de la sélection, un des rares à avoir accepté d'en parler après la rencontre, préfère lui aussi regarder vers l'avant.
On est focalisé sur ce qui arrive. Notre réponse, c'est le communiqué de la fédération et c'est tout. On est tourné vers le futur.
Une situation inédite qui met tout le monde un peu mal à l'aise et qui ferait presque oublier que le Maroc rejouera mardi un autre match amical, cette fois à Lens, face au Paraguay.
Rappelle donc ce match préparatoire entre le Maroc et l'Équateur qui se jouait à Madrid s'est soldé par un match nul, un but partout. Outre la polémique de la CAF qui a entouré cette rencontre, il faut signaler aussi que c'était aussi le début de l'ère Mohamed Wahbi, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Cet entraîneur belgo-marocain de 49 ans a succédé à Walid Regragui avec pour mission principale la Coupe du Monde 2026. Il livre ici ses impressions après ce match nul contre l'Équateur.
Content déjà d'avoir joué un match pareil. On connaissait, on avait analysé l'Équateur. C'est vraiment une très bonne équipe. Une équipe qui a montré aussi dans les qualifications pour la Coupe du Monde, en étant deuxième, en étant devant des équipes comme le Brésil, l'Uruguay, la Colombie. Donc, ça vous permet tout de suite de voir à quel niveau on se trouve, de voir aussi quand on a une équipe qui nous pousse vraiment à se surpasser, de voir aussi ce qu'on doit encore régler. Donc, on est satisfait de la prestation, vraiment satisfait de la prestation, mais ça nous donne aussi beaucoup, beaucoup pour pouvoir encore continuer à progresser et travailler pour être encore meilleur. S'il n'y avait rien à travailler après ce match-là, franchement, j'allais me poser des questions et pourquoi j'étais ici. On sait que ce qu'on veut, c'est être performant à la Coupe du Monde.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Et l'équipe nationale de football du Sénégal était à Paris ce week-end pour disputer un match amical contre le Pérou et présenter son trophée de la CAN. Un trophée disputé. Cependant, les Lions de la Teranga entendent conserver ce trophée malgré tout. Explication, Babacar Diarra, RFI.
Des bannières champions d'Afrique aux deux étoiles disposées dans et en dehors de l'enceinte, c'est une démonstration de force qu'a voulu réaliser la fédération sénégalaise. La CAN 2025 restera sa propriété, sentiment aussi revendiqué par Samba, membre du groupe des supporters 12e Gaïndé.
J'étais au front des personnes qui étaient au front. Si c'était à refaire, je vais le refaire. C'était de l'anarchie, on a failli nous arracher la coupe, c'était pas possible. On est là effectivement venu pour montrer et revendiquer que ceux qui sont au Maroc, on doit les libérer.
Ce message a été aussi brandi sur des pancartes, tantôt explicites, tantôt ironiques, mais l'esprit était surtout à la fête avec la présence de la légende de la musique Youssou N'Dour et un match victorieux qui arrivait presque comme un bonus.
Le Sénégal a gagné 2-0, on est grave contents, on est heureux. On n'a pas payé notre billet pour rien.
Brandi avant le coup d'envoi, le trophée de la CAN a même eu droit à un deuxième tour d'honneur où le latéral Elhadj Malik Diouf a savouré chaque seconde.
C'est le Sénégal, tu les vois comme ça, c'est la fête. C'est la fête des deux étoiles.
Artisan dans la conquête des deux étoiles, le gardien Edouard Mendy classe haut cette communion dans les moments forts de sa carrière.
Je ne m'imaginais pas un jour jouer en France, au Stade de France en plus, devant 80 000 personnes. C'est une réelle fierté de se dire qu'on y a tous contribué.
Que le titre leur soit retiré ou non, tous les joueurs sénégalais sont unanimes pour affirmer que les émotions resteront pour l'éternité.
Et toujours au football, Amnesty International appelle à garantir la protection des supporters du football avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qualifiant la situation aux États-Unis d'urgence en matière des droits humains. Le porte-parole d'Amnesty, Steve Cockburn, explique que pour le Canada, pays co-organisateur, les conséquences socio-économiques sur les populations sans-abri et la répression des manifestants figurent parmi les principales préoccupations. Quant au Mexique, également co-organisateur, il craint que le risque d'abus de pouvoir de la part de l'armée ne s'accroisse pendant toute la durée du tournoi. Cependant, sa principale inquiétude concerne les États-Unis, où 75% des matchs se dérouleront. Le durcissement des contrôles d'immigration y a entraîné de nombreuses interdictions de voyage et un risque accru d'expulsion. M. Steve Cockburn exige que la FIFA obtienne la garantie que les agents d'immigration ne seront pas dirigés vers les sites les plus fréquentés du tournoi.
There are huge risks around this tournament this summer. This does not feel like the World Cup that was originally promised. FIFA has enormous leverage on this World Cup. It's built a very close relationship with the Trump administration. It needs to use that leverage now.
Et mot tennis, on signale la défaite ce week-end d'Arthur Fils à Miami en demi-finale face au Tchèque Jiří Lejka. 6-2, 6-2. On rappelle qu'aucun des deux joueurs n'avait encore disputé de finale à Masters 1000. Arthur Fils peut se satisfaire de remonter dès lundi prochain dans le top 30 au classement mondial. En finale, Jiří Lejka a affronté Jannik Sinner. Ce dernier s'est imposé en 2-7, 6-4, 6-4. À 24 ans, Sinner devient le 8e joueur masculin à s'imposer à Indiana Wells et à Miami. Et se dit ravi de ramener ce trophée tant convoité à la maison.
And making here the first time Sunshine Double, it's incredible. It's something I would have never thought, you know, because it's so, so difficult to achieve and... Yeah, and we made it somehow, so I'm very happy.
Congrats.
Thank you.
Pour la petite histoire, le dernier joueur masculin à avoir aussi le doublé Indian Wells et Miami Open de la même saison, c'était Roger Federer en 2017. Et en sport automobile, la saison du pilote australien de Formule 1, Oscar Piastri, a enfin démarré avec une deuxième place au Grand Prix du Japon. Après avoir manqué le départ à Melbourne et à Shanghai, l'Australien a pris la tête dès le premier tour à Suzuka. Mais il a finalement été dépassé par Kimi Antonelli, parti en pole position. L'Italien de 19 ans a ainsi remporté sa deuxième victoire consécutive, tandis que Piastri, deuxième, a inscrit ses premiers points de la saison. En athlétisme, Caster Semenya, double médaille d'or olympique du 800 mètres féminin, s'est dit déçu par la décision du Comité international olympique, CIO, d'interdire aux femmes transgenres de participer aux épreuves féminines de jeu. Un document de politique de 10 pages, publié la semaine dernière, détaille les restrictions imposées aux athlètes féminines comme Semenya, qui souffrent de pathologies entraînant des différences dans leur développement sexuel. Semenya, assignée femme à la naissance, mais présentant un taux de testostérone supérieur à la normale, a été exclu de certaines compétitions pour avoir refusé de se conformer au règlement et de prendre un traitement visant à réduire artificiellement son taux d'hormones. Semenya a critiqué la présidente du CIO, Kirsty Coventry, pour cette décision, affirmant qu'elle serait préjudiciable.
Because we talk about science here, if the science is clear, show us who decided, and don't dress that as a lie because it's a lie. And we know because we've seen it. So if we were to answer or confront Kirsten, that's how we're going to respond, and we'll respond strong, as we are, because it affects women.
C'est tout pour l'actualité sportive de ce mardi. Merci de rester à l'écoute de SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.